Donc je vais présenter maintenant notre conférencier de ce soir, Marc Latrompe. Il est né en 1950. Il est actuellement directeur général du Centre national du génotypage. Il a un doctorat en biomathématiques de l'Université de Washington. Il a été de 82 à 83 maître de conférence au Musée de l'Homme, puis chargé de recherche à l'INSERM. De 88 à 94, il est directeur de recherche à l'INSERM. De 1994 à 1998, il est directeur scientifique du Wellcome Trust Center for Human Genetics à Oxford. Et à partir de 1996, il est professeur de génétique humaine à l'Université d'Oxford. Mais depuis 1998, il est directeur général du Centre national de génotypage. Il est l'auteur de nombreuses communications savantes dans les revues internationales spécialisées. Je vais lui laisser la parole donc pour une cinquantaine, 50 à 60 minutes sur son sujet, génome et cancer. Et puis ensuite, je reviendrai à cette tribune pour la période des questions. Voilà, merci.
Merci beaucoup pour cette introduction et merci à tout le monde d'être venu entre la chaleur de samedi après-midi et le fait de la musique pour écouter quelques paroles sur le génome et cancer. Notre centre, le Centre national de génotypage, est dédié à l'étude génétique de différentes maladies, beaucoup de maladies humaines. Mais ce soir, à la demande des organisateurs, je vais discuter uniquement ou presque uniquement le génétique, génomique et le cancer. Et le cancer est peut-être une maladie du génome exemplaire, exemplaire dans le sens que c'est le plus classiquement la maladie qui est le plus classiquement connue comme d'être une maladie génétique, à la fois au niveau de la variabilité qu'on voit dans les tumeurs de cancer, la variabilité génétique générée par des processus biologiques qu'on ne va pas discuter ce soir en détail, mais aussi parce que chaque malade a aussi son héritage de variabilité génétique héritée de ses parents qui peut modifier les prédispositions à la maladie et des prédispositions de la maladie devant différents facteurs du milieu et aussi peut modifier les réponses le malade au traitement. Et donc, je vais essayer de vous faire un lien entre ce qu'on appelle ici les études somatiques, génétiques somatiques, les études génétiques constitutionnelles et l'épidémiologie. Et je vais en fait discuter sans doute en deux parties. Premièrement, je vais faire un résumé très rapide de certains aspects de la génétique somatique du cancer. Et après, je vais toucher plutôt tirer de la littérature. Et après, je vais discuter des résultats de notre laboratoire sur des aspects de prédisposition génétique à le cancer. Donc, il faut dire que quand j'ai dit que tout cancer, toute tumeur est différente, tout individu est différente sur son héritage génétique, il y a une notion de variabilité, mais aussi de similarité entre les individus. Et si on regarde, par exemple, le génome de 12 individus dans la salle ici, on va, parmi toutes les paires de bases qui existent dans le génome, voir quand même des différences à un nombre très important, plusieurs millions de sites variables dans le génome entre 12 individus, si on pouvait regarder la séquence de leur génome. Mais pour chaque site variable dans le génome, la variabilité entre deux individus est beaucoup moins importante. Pour chaque site, il y a peut-être un maximum, dans la plupart des cas, de 50% de variabilité entre les individus. Et cette variabilité globale, mais aussi les similarités qui existent entre des gens à chaque site, permettent de faire des corrélations entre les prédispositions, enfin, le développement d'une maladie ou en réponse à un traitement. Si on peut trouver des catégories des individus catégorisés par des facteurs génétiques et qui sont corrélés avec le développement d'une maladie, on peut déduire des conséquences, des facteurs biologiques qui sont importants pour la maladie. Et donc, je vais illustrer ces approches qui dépendent de notre connaissance actuelle de la méthodologie pour explorer la variabilité du génome pour deux cancers fréquents. En fait, le cancer de sein et le cancer de poumon, qui sont deux cancers qui sont parmi les plus fréquents mondialement. Et comme j'ai dit, je vais aussi essayer d'explorer en partie la relation entre des facteurs génétiques et des facteurs de milieu qui sont très importants pour ces maladies. On connaît bien sûr pour le cancer de poumon l'importance du tabac, et on aura l'occasion de revenir sur cette facteur dans la maladie. Mais aussi, il y a des facteurs sans doute très importants de milieu pour le cancer du sein. Et on le voit, par exemple, si on regarde la fréquence de la maladie dans le temps que la maladie se développe chez les femmes, par exemple aux États-Unis, vous voyez que dans le temps, il y a quand même un changement assez important de fréquence. Récemment, ce qui est intéressant et qui attire beaucoup d'attention, et on aura aussi l'occasion de revenir sur ça, récemment, un chute relativement important de fréquence de cancer de sang aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de discussions sur la raison pour cette chute de fréquence. Le cancer, comme je dis, est connu d'être une maladie génomique et je vais illustrer ça juste avec un exemple pour vous situer dans le cancer de sein. Et donc, c'est les alterations, un facteur génétique qui est très important dans cette maladie, qui est connu d'être très important, c'est des variabilités, des mutations au niveau d'un gène, R2, des mutations qui sont présentes peut-être chez 25% en cas de femmes qui développent la maladie. Et la raison que cette variabilité génétique a une importance pour la maladie est liée à le nombre de récepteurs qui sont générés par ce gène dans les tumeurs. Il y a une surexpression de gène R2 dans les tumeurs de ce type de cancer de sein qui engendre une accélération de le développement du tumeur. Mais la connaissance de cette mécanique a permis quand même des stratégies pour développer des médicaments qui sont très spécifiques à cette sous-groupe de malades, le sous-groupe de femmes qui développent alors une maladie des tumeurs avec la surexpression de R2 peut être traité par des médicaments qui sont développée pour être dirigée spécifiquement contre cette anomalie. Ça a beaucoup changé les perspectives pour le prognostic, je dirais, pour les maladies dans cette classe de tumeurs, qui était très négative avant le développement de ces thérapies et qui est devenue beaucoup plus positive maintenant. Alors, l'étude d'un seul gène est une approche importante, comme on a vu pour R2, dans la caractérisation des tumeurs. Mais ce qui a beaucoup révolutionné l'approche génétique à l'étude d'expression des gènes dans les tumeurs, c'est le développement dans les années 90 des possibilités d'étudier l'ensemble des gènes dans le génome et leur expression dans les tumeurs pour voir sur les gènes, l'ensemble des gènes qui sont surexprimés et l'ensemble des gènes qui sont sous-exprimés dans des tumeurs. Ici, c'est un exemple d'un article qui est devenu classique maintenant, qui a été publié en 2000, qui est un des premiers articles qui démontrait la possibilité de classifier au niveau de tout le génome des tumeurs de cancer de sein par les expressions des différents gènes. Ici, c'était une étude d'à peu près 8000 gènes et vous voyez une analyse ici d'à peu près 1700 gènes qui peut différencier entre différentes classes de tumeurs. Il y a la classe, par exemple, ici, qui sont R2 positives, mais vous voyez qu'il y a différents gènes qui sont aussi associés, surexprimés dans cette condition en dehors des R2. Et ici, c'est une autre classe de tumeurs qui sont des tumeurs qui sont aussi qu'il y a une surexpression de le récepteur d'estrogène. Je vais revenir sur ça. Donc, actuellement, il y a beaucoup de travail qui se fait au niveau de l'étude, d'essayer d'identifier un nombre de gènes qui peut être prédictif de l'évolution de la maladie en faisant ce type de caractérisation sur l'ensemble des génomes dans des tumeurs qui ont différentes, enfin, dans des malades avec différentes caractéristiques, essayer de trouver des gènes alors qui permettent à bien classifier les tumeurs selon leur pronostic pour des études à la fois diagnostique pour identifier le sous-groupe de cancer de sein qui appartient à la tumeur, mais aussi pour essayer de mieux identifier les processus biologiques derrière et aussi des médicaments qui sont peut-être éventuellement spécifiques à un sous-groupe de malades. Au point que le cancer de sein peut être considéré maintenant comme on ne fait pas une maladie seule, mais plusieurs maladies différentes qui peuvent être classifiées sur le plan moléculaire. Et les études de ce type continuent, et donc je n'ai pas le temps de développer ça en détail, mais je voulais juste vous signaler, par exemple, un article récent qui est intéressant sur un gène qui est nouvellement impliqué dans la progression de la maladie. Alors, je reviens maintenant à l'interaction entre les facteurs moléculaires et les facteurs de milieu. Et je vous avais noté qu'aux États-Unis, il y avait, à partir de l'année 2000, une chute importante dans la fréquence de cancer de sein. La raison pour ça est très discutée, mais il y a des bonnes raisons à penser que c'est lié à la découverte ou à la publicité qui a été faite autour de l'impact des hormones prises par des femmes au moment de ménopause et leur impact sur le risque de cancer. Quand cette information était devenue publique, disons, autour de 2000, il y avait une chute très importante dans l'utilisation, au moins dans certains types de hormones de remplace au moment de ménopause, qui correspondent aussi à la chute importante dans la fréquence des cancers, surtout dans le groupe de cancers qui sont positifs, le classement de cancers des seins qui sont positifs pour le récepteur d'estrogène. Et donc, il y a des raisons à penser que ces deux facteurs sont liés. Ici, c'est une étude qui est tirée d'une étude prospective épidémiologique sur plus qu'un million de femmes en Angleterre qui ont été suivies et surveillées pour le développement de cancer du sein pendant à peu près 10 ans maintenant. Et on a pu constater qu'il y avait un risque assez important, supérieur pour développer le cancer du sein chez des femmes qui ont été traitées par les hormones en comparaison avec les femmes non traitées. Et très intéressant, c'est que le rate de traitement rend les femmes à peu près équivalentes à les non traitées au niveau de leur risque de développement de cancer du sein. Et comme j'ai dit, ça reste toujours un sujet controversé, mais il y a quand même peut-être des présomptions assez importantes sur l'implication de traitement par certaines combinaisons, au moins des hormones, certains hormones, pour le développement de cancer du sein. L'étude One Medium Study, un exemple d'une étude génétique, qui est en partie génétique, je n'ai pas développé la partie génétique ici, mais épidémiologique et génétique, sur une grande cohorte de volontaires qui sont suivis pendant des années pour voir le développement des maladies et la relation entre les différents facteurs de risque, y compris les facteurs moléculaires. Et c'est une tendance de maintenant, vu la puissance potentielle, le potentiel des études génétiques des maladies, à développer ce type de collection dans différents endroits dans le monde pour être en mesure dans les années à venir à faire le même type d'études que j'ai cité pour le cancer du sein, mais sur d'autres maladies, d'autres cancers et d'autres maladies. Et c'est des outils qui sont en train d'être développés, qui vont être très importants pour ce type d'exploration dans l'avenir. J'ai dit que, quand j'ai parlé d'un type de cancer du sein, les HER2 positives, c'était lié à des nombres de copies de gènes existants dans des cellules de tumeur. Et le nombre de copies est lié souvent à l'expression de gènes, si c'est surexprimé ou sous-exprimé. Et c'est possible d'explorer ce genre de variabilité dans une tumeur. Ici, ce n'est pas le cancer du sein, c'est le neuroblastome, dans une étude qu'on avait faite avec Olivier Dulat, l'Institut Curie. Mais vous voyez que dans les parties de cellules où il y a de tumeur qui est normale, on voit une variabilité qui est aussi normale entre différents sites de génome. Comme il y a deux copies de chaque chromosome, on voit des sites où il y a deux alléles différentes, d'autres sites où il y a deux copies de même allèle, mais sur la région de une longue région de ce chromosome, souvent dans les neuroblastomes, on voit que il y a une seule copie de chromosome dans les cellules cancéreuses parce qu'il y a une perte complète d'une partie de chromosome. Et donc, tous les gènes qui sont dans cette partie de chromosome peuvent être touchés par le fait qu'il y a un seul exemplaire dans le tumeur. Alors, il y a la possibilité à l'heure actuelle d'explorer ce type de variabilité qui est très grosse parce que là, dans l'exemple que je vous avais donné, parce qu'il y a tout un bras de chromosomes qui est éliminé dans le tumeur étudié. Mais on peut et on veut détecter des variantes qui sont beaucoup plus moins important, mais qui ont quand même un effet biologique majeur sur le développement du cancer. Alors, les développements technologiques qui existent actuellement pour séquencer le génome humain sont tels qu'on peut imaginer de faire ce type d'étude à une échelle très importante et avec des détails très fines au niveau de la connaissance du génome d'un seul cancer. Et je ne vais pas entrer dans le détail de la technologie derrière tout ça, mais la rapidité de séquençage et la réduction du coût fait penser aux gens ou des agences de lutte contre le cancer et d'autres agences de recherche biomédicale, que c'est le moment de lancer un programme qui est un programme de génome de cancer. Et je voulais juste vous citer qu'il y a maintenant une organisation de ce programme au niveau mondial avec participation de notre institut de cancer, l'INCa, en France et avec beaucoup d'autres instituts pour essayer de développer un catalogue complet des modifications génétiques dans des tumeurs de différents cancers. Une organisation qui est un peu comme l'organisation de séquençage de génome humain qui a été fait dans les années 90. Bon, je vais laisser la partie études génétiques somatiques pour revenir sur la question de la prédisposition à la maladie. Alors, j'ai dit que la prédisposition à la maladie, au départ, je l'avais indiqué, c'est l'héritage qu'on reçoit de ses parents qui définit un profil de risque génétique. Les gens sont inégaux devant les différents risques pour développer une maladie grâce à la variabilité génétique. Mais bien sûr, tout le monde a des risques de développer une maladie ou une autre. Mais la question qui se pose, est-ce qu'il y a des facteurs génétiques qui prédisposent une personne de développer ou un groupe de personnes à développer certaines maladies devant certains facteurs de milieu, par exemple. Bon, dans le cancer de sein, on connaît depuis les années 90 certains facteurs de prédisposition qui sont très importants parce qu'ils ont hérité à l'intérieur des familles et ils contribuent à un risque important à l'intérieur des familles de développer la maladie. Des gènes BRCA1, BRCA2, par exemple, contiennent des mutations qui sont relativement rares dans la population, mais quand ces mutations sont présentes chez quelqu'un, le risque de développer un cancer de sein est très élevé. Par contre, on connaît beaucoup moins sur les facteurs de génétique qui peuvent être impliqués dans des cancers plus tardifs, par exemple le cancer de sein chez des femmes après 50 ans. Pourtant, récemment, et c'est là où je vais revenir avec, je vais vous montrer des exemples de la méthodologie et résultats. Depuis 2 ans maintenant, on commence à identifier un ensemble des facteurs génétiques qui jouent dans la maladie de cancer de sein, même dans des cas qui sont tardifs. Alors, ce développement qui est assez récent est lié à 2 choses. Premièrement, la disponibilité des informations de plus en plus détaillées sur la variabilité du génome. Donc, depuis le séquençage du génome humain, on a vu identifier plus de 15 millions de variantes qui sont maintenant disponibles dans des catalogues aux chercheurs pour être étudiés. Et en même temps, il y a une explosion de technologies qui permettent de caractériser la variabilité sur une grande échelle de ces variantes dans le génome, un peu comme je vous avais cité pour les technologies qui permettra de faire le catalogue des variabilités somatiques. Ici, c'est la variabilité constitutionnelle. Alors qui est important pour les profils de risque des individus. Alors, on peut, avec cette information, identifier des facteurs génétiques avec une stratégie qui est relativement simple au niveau conceptuel. Ça consiste à étudier des variantes de génome dans des individus qui sont malades, des patients, et comparer les fréquences de ces variantes dans une population qui est non sélectionnée pour la maladie ou qui est représentative de la population en France, et de voir si les malades ont des différences systématiques ou relativement systématiques en comparaison avec les témoins. Donc, les comparaisons se font avec juste des tests statistiques relativement simples, des Ki2 par exemple, et on exprime la significance des différences en valeur de P, c'est la significance qu'on donne aux tests statistiques. Ici, c'est juste un exemple où on a pris le logarithme de ces valeurs de P pour être plus facile à visualiser en logarithme. Et on regarde sur l'ensemble des génomes, vous voyez les différents chromosomes indiqués ici, et dans des régions qui sont enterrées, on voit qu'il y a des valeurs statistiques qui sont assez significatives. Quand on voit par exemple ici une valeur qui est autour de 20, ça veut dire pour les gens qui ont un peu de statistiques que les différence est significative à P exponent moins 20, puissance moins 20, qui est très significative, disons. Et donc, qui identifie sans ambiguïté des régions de génome qui contiennent des facteurs de prédisposition pour la maladie. Mais on peut les confirmer en faisant des études similaires sur ces régions dans d'autres populations, cas témoins. Donc, je vais revenir maintenant à. Je ne vais pas vous illustrer ça avec le cancer de sein, mais plutôt avec le cancer de poumon. Alors, dans l'étude que je vais montrer, qui est une étude qu'on avait faite avec le CERC, l'Institut de cancer international, sponsorisé par l'Organisation mondiale de santé à Lyon, nous avons étudié dans un premier temps. On a fait nos explorations sur tout le génome d'un presque 2000 cas de cancer du poumon tirés des populations de l'Est d'Europe et on a confirmé les résultats dans d'autres populations. la raison pour la sélection des populations dans l'Est d'Europe, c'est que vous pouvez voir ici que le cancer du poumon est quand même important partout, mais particulièrement important dans cette partie de l'Europe, ce qui nous a encouragé d'étudier ces populations en particulier. Alors, le résultat de, comme je vous avais montré tout à l'heure dans l'exemple de méthodologie, de génome qui a identifié une région ici, qui est sur le chromosome 15, qui est très différente dans les variantes trouvées dans cette région en fréquence très différente chez les gens avec la maladie comparée avec les témoins. Ici, c'est la région juste en plus de détails. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs variantes dans la région qui sont associées. Encore plus de détails. Nous avons, par reséquençage de toute cette région, reséquençage dans différents individus, identifié encore d'autres variantes qui étaient étudiés dans la maladie et certains qui sont très associés aussi avec le cancer. Donc cette région contient, il est certain maintenant, parce qu'on peut le répliquer dans d'autres cohortes un peu partout dans le monde, un facteur de prédisposition au cancer de poumon qui est relativement important. Et je vous montre ici comment on peut évaluer l'importance dans la maladie de cette région. Bon, première chose à savoir, c'est que le facteur de risque qui est le plus fort pour le cancer du poumon, c'est le tabac. Et si vous fumez, c'est mieux d'arrêter. Mais même si vous arrêtez, malheureusement, vous avez quand même un risque de développer la maladie qui reste élevé. Et en fait, compte tenu de l'impact du programme sur les fumeurs, pour essayer d'arrêter de fumer, dans des pays comme les États-Unis et l'Angleterre, où il y avait une réduction assez importante depuis plusieurs années, enfin, peut-être en commençant il y a 20 ans, de nombre de fumeurs, la plupart des cas qu'on voit sont chez les anciens fumeurs. Mais vous voyez que le marqueur génétique aussi contribue dans chacune de ces catégories à une augmentation de risque de la maladie. Et en fait, le risque de la maladie qui est associé avec ce marqueur est à peu près 15% de la maladie dans la population. Ça veut dire c'est que si on n'avait pas la variabilité dans la population et tout le monde était de ce type génotype ici, on aura réduit la fréquence de la maladie par 15%. Donc, c'est un facteur qui est relativement important sur la prédisposition de la maladie en présence de tabac, mais aussi, comme je vais vous montrer, aussi éventuellement dans l'absence de tabac. Alors, quand on regarde cette région en plus de détails et on regarde les gènes qui sont localisés de cette région, on voit qu'il y a plusieurs gènes qui sont partis d'une famille de sous-unités de récepteurs, c'est-à-dire ils se combinent avec d'autres membres de même famille, mais qui sont localisés dans d'autres endroits du génome. Ils se combinent avec ces autres sous-unités pour former des récepteurs de nicotine. Et donc, il y a une implication directe entre les facteurs génétiques identifiés ici et ces récepteurs. Ils sont éventuellement aussi impliqués dans la dépendance du tabac. Je vais vous montrer ça dans un instant. Mais pour les généticiens, il faut savoir que cette région est très difficile à dissecter sur le plan génétique. Donc, il y a des marqueurs qui sont associés, donc des qui forment des haplotypes qui sont associés avec, avec la maladie, mais qui sont localisés sur, sur toute la région. Mais il y a un seul marqueur qui est un marqueur dans la région codon qui peut modifier la fonction biologique d'un de ces gènes de récepteurs de nicotine. Et donc, on est en train d'explorer la biologie de ce marqueur et son relation éventuelle avec, avec différents facteurs de lié au tabac et l'impact du tabac sur le cancer. Donc, nous avons pensé, bien sûr, que ces facteurs peuvent être jouer un rôle dans le cancer dans deux manières. Premièrement, parce qu'ils attachent dans le poumon des carcinogènes qui sont contenus dans le fumée, mais il peut aussi, au niveau de la, de la, de la, de leurs implications neurologiques, jouer un rôle dans la dépendance de nicotine. Et ils sont, certains membres de cette famille, dans d'autres régions, sont beaucoup étudiés pour les implications dans la dépendance. Nous avons peu exploré ça dans nos cohortes, enfin dans nos populations de l'Europe de l'Est, avec différentes mesures de dépendance du tabac. Et nous n'avons pas vu un effet, on n'a pas vu un effet non plus de ces marqueurs sur d'autres cancers qui sont liés à la consommation de tabac, où le risque est lié à la consommation de tabac. Et donc, on pense que l'implication est sans doute au moins en grande partie par les effets de dans le poumon associés au carcinogène dans le tabac. Et ça, c'était aussi une hypothèse qui était soutenue par le fait qu'on avait vu le même effet de risque augmenté chez les non-fumeurs qui développaient un cancer du poumon. Donc, c'est une catégorie de gens qui sont relativement rares, mais chez les gens qui n'ont pas fumé dans leur vie et qui développent quand même un cancer du poumon, il y a aussi un risque qui est associé avec ces marqueurs, qui fait penser qu'il y a un facteur déclenchant en dehors de tabac, mais un facteur déclenchant associé à l'activité des récepteurs dans le poumon. Nous avons aussi étudié d'autres cancers associés au tabac, et comme vous voyez ici, il y a quand même un grand nombre de cancers qui, où le risque est plus élevé avec le tabac, et on n'a pas jusqu'ici trouvé un effet de ces marqueurs dans des autres cancers. Pourtant, ces résultats ont été aussi retrouvés par d'autres équipes maintenant, enfin deux autres équipes qui ont fait des études dans d'autres populations, mais sur les mêmes marqueurs. Et je vous cite juste l'étude ici sur les Islandais, qui ont démontré avec un très grand nombre d'individus qui avaient un léger effet sur le niveau de consommation de tabac estimé chez ces gens. Mais cet effet correspond à une augmentation d'à peu près une cigarette par jour, qui ne peut pas du tout expliquer le grand effet que ça a, enfin, la magnitude de l'effet qu'on voit pour le cancer du poumon. Il reste beaucoup d'études à faire pour comprendre la biologie et l'implication de ces marqueurs dans le cancer du poumon. Et ici, c'est juste un début d'un travail qui est déclenché depuis la découverte de ces résultats dans beaucoup de laboratoires mondialement. On peut continuer à faire des explorations génétiques de cancer du poumon, et nous avons fait avec plus de... En augmentant le nombre de sujets qui sont étudiés sur l'ensemble des génomes pour voir si on peut identifier encore d'autres régions qui ont des effets de risque. Ici, c'est un exemple d'une autre région qui a été identifiée et encore répliquée dans plusieurs collections, confirmée dans plusieurs collections maintenant comme étant impliquée dans le cancer. Et ici, je vais vous apprendre les détails mais, de ce diapo, mais juste pour vous dire que pour les biologistes qui sont parmi vous, que le, ces marqueurs, enfin, cette région de prédisposition inclut un gène qui est aussi assez intéressant pour étudier dans des cancers et notamment dans le cancer du poumon. En fait, j'ai voulu juste... non, je crois que je vais... Je n'aurai pas le temps de développer le sujet suivant, donc je crois que c'est préférable si je m'arrête là. Je vais, vous prendre, je vais prendre vos questions et je vous remercie de votre attention.
Bon, bah, comment on va faire ? Une seconde. On n'a pas de... Bon, on va prendre les questions, puisque... Alors, qui... signalez-vous un peu que je... qu'on puisse les distribuer. Est-ce qu'il y en a par là ? Il y en a une ici, mais ici... Tout en haut. Allez, tout en haut. On va vous faire remonter. Excusez-moi. Alors, on va peut-être les entendre. Ah oui, d'accord, merci.
Bon. Bon, ma question est la suivante. J'aimerais savoir si les études que vous avez faites sur la relation entre hormones et cancer du sein chez la femme sont applicables en France. Est-ce qu'il s'agit des mêmes hormones étudiées? Puisque j'ai cru que les hormones n'étaient pas les mêmes aux USA, par exemple, et en France. Les hormones que l'on donne aux femmes, bien sûr, dans le cas du traitement substitutif.
Oui, vous avez tout à fait raison. Il faut prendre avec prudence ces résultats. Premièrement, comme j'ai dit, il y a beaucoup de discussions actuellement sur l'importance potentielle de différents facteurs qui peuvent être impliqués dans le déclin de fréquence de cancer du sein. Et en plus, il y a des différences entre des pays dans la forme de traitement, et ces différences peuvent être un facteur très important aussi dans le risque de cancer du sein. Donc j'ai voulu développer cet exemple pour illustrer le type de problématique qui se pose actuellement. Mais sans bien sûr tirer des conclusions ici sur la pertinence ou pas pour des traitements qui sont prescrits et notamment des traitements en France qui sont relativement différents que des traitements donnés aux États-Unis, par exemple.
Monsieur,
bonjour. Je voudrais savoir si vous pouvez nous toucher deux mots sur les gènes suppresseurs de tumeurs.
Est-ce que vous pouvez répéter la question?
Pouvez-vous nous parler des gènes suppresseurs de tumeurs, MP53?
Les gènes de suppresseurs de tumeurs?
Oui.
Oui, c'est ça? Oui. Bah, je n'ai pas parlé directement des gènes de suppresseurs de tumeurs, mais dans les études qu'on fait de l'expression globale pangénomique des gènes, il y a quand même des implications de ces patterns au niveau de des gènes de suppression de tumeurs. Donc, je n'ai pas eu le temps de. Les différents types de gènes qui peuvent être impliqués sont très variables. Et nous n'avons pas le temps vraiment d'entrer dans le détail de ça ici. Comme je vous avais dit,
excusez-moi, on n'a plus.
Comme je vous avais indiqué, au moins, enfin, certaines publications, vous pouvez regarder en plus de détails ce genre de questions. Et donc,
voilà.
Ici, c'est un article qui est assez intéressant, qui est un peu général sur les approches. Ici, un gène qui a des impacts importants sur l'expression de toute une série d'autres gènes. Et donc, si vous regardez dans ce type de publication, vous allez voir des résultats qui sont pertinents à votre question.
Deux ici, monsieur, madame.
Qu'est-ce que vous pensez de la gendicine qui est utilisée en Chine, qui agit sur la protéine P53?
Ce que vous pensez de
la gendicine.
Gendicine.
Gendicine, c'est quel
La gendicine est utilisée en Chine contre le cancer de la sphère ORL. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je vois. J'ai pas d'informations spécifiques. Il y a des études qui se font sur donc l'expression des gènes peut être bien sûr impactée par différents facteurs, y compris des facteurs nutritionnels. Et il y a des études sur ce genre de questions. Je passe peut-être pas spécifiquement à Zhenzhang, mais sur les questions plus générales de l'impact des différents facteurs nutritionnels sur le développement de cancer par le biais de biologique de l'expression des gènes.
Bonjour. Je voulais savoir quel était le rôle du gène R+, et en quoi une mutation au niveau de ce gène peut jouer un rôle sur la maladie du cancer.
J'ai un peu de mal de... Il faut juste parler un petit peu plus fort parce que...
Oui, on entend mal.
On entend mal ici.
Donc ma question c'était, quel est le rôle du gène R+, et en quoi une mutation au niveau de ce gène peut provoquer un cancer?
Donc, il faut voir que ce n'est pas la mutation dans le gène qui provoque le cancer, mais c'est un type de tumeur qui a le gène, enfin qui porte des mutations dans ce gène, qui est un peu expliqué ici, le fait qu'il y a des copies multiples de gènes dans le tumeur, et une expression plus élevée de récepteurs, et donc un signal de prolifération de tumeurs qui est lié à ça. Donc la biologie est relativement compliquée, mais si vous notez ce site-là, vous pouvez aller voir des explications biologiques et des références à différentes, différentes publications, spécifiquement sur la biologie des R2. Et c'est un exemple d'un traitement qui est dirigé spécifiquement contre ce récepteur. Et on fait comme ça interférer avec le récepteur. Ça a aussi des conséquences au niveau de la prolifération. Donc ça diminue la prolifération parce que ça fait une interférence sur les récepteurs qui sont surexprimés. Donc je crois que c'est un site qui donne plusieurs informations supplémentaire sur la biologie de ce système.
J'ai remarqué que vous n'avez pas employé le mot oncogène. Est-ce que ce mot-là est un peu désuet, un peu périmé?
Non, pas du tout. Des oncogènes sont des gènes qui sont impliqués dans des cancers. Par leurs implications au niveau de l'expression, etc. Et donc, moi, je n'ai pas utilisé le mot, mais si vous regardez dans la littérature, vous allez le voir partout.
Autre question? Non? C'est terminé? Bien, on va vous remercier, Marc Latrobe.